et se développer. L'histoire d'Erectus, plusieurs centaines de milliers d'individus, a duré 1 million d'années durant lesquelles le volume de son cerveau est passé, grosso modo, de 700 cm3 à 1100. On sait aujourd'hui que, chez les humains, une différence de quelques cm3 de cervelle ne détermine pas plus un niveau d'intelligence que quelques dizaines de grammes de muscles n'influent sur la force physique. Mais, tout de même, le développement de cet organe a coïncidé avec la progression des humains. D'ailleurs, l'évolution d'un espace intérieur crânien suffisant était indispensable pour permettre au réseau de neurones de se multiplier. Quoi qu'il en soit, équipé d'un arsenal neuronal disproportionné comparé à celui des autres êtres vivants, les diverses espèces humaines ne se réduisaient pas à des bandes de brutes stupides ainsi qu'on a trop longtemps voulu le croire. C'est environ 350 000 ans avant qu'un humain ne marche sur la Lune que l'on date les premières traces de notre cousin Homo neanderthalensis. Doté d'un cerveau de 1500 cm3, donc plus volumineux que le nôtre, il fabriquait des outils, donnait une sépulture à ses morts et faisait preuve d'une intelligence consciente comparable à celle de nos aïeux. Cela n'a pas suffi à le sauver. L'espèce a fini par s'éteindre, supplantée par Homo sapiens, nous, qui sommes apparus il y a à peine 195 000 ans. Seuls les Européens et les Asiatiques ont conservé, sous la forme de 2 ou 3% de gènes intégrés à leur ADN, un petit souvenir de Néandertal, cet autre humain, un peu mystérieux puisqu'étranger et proche, côtoyé durant 160 000 ans. Donc, le temps passait et ces êtres s'adaptaient, se défendaient, fuyaient, chassaient comme les autres animaux autour d'eux. Parfois ils gagnaient, parfois ils perdaient. Mais, avec un anthropomorphisme dont il subsiste pas mal de traces aujourd'hui encore, ils attribuaient aux éléments et aux êtres vivants les mêmes peurs, les mêmes besoins et les mêmes désirs qu'eux-mêmes éprouvaient, faisant ainsi de certains animaux des alter-égaux ou ébauchant la création de Dieu qu'ils imploraient de les épargner lorsque le ciel grondait, que le fleuve en crue emportait tout sur son passage ou que les fauves menaçaient le groupe. Déjà, ils faisaient preuve de cette curieuse propension à l'irrationnel dont les autres animaux, tout bêtement logiques, restent aujourd'hui encore bien incapables. Les humains personnifiaient des forces naturelles et commençaient à imaginer des situations qui n'existaient pas, à se construire des visions du monde qu'ils précisaient et développaient en fonction de leurs nécessités, comme ce lancinant besoin de trouver un sens à leur vie pour tenter de s'accommoder de la mort. Le dernier des humains. Avec Homo sapiens, tout s'est accéléré. Fabrication d'outils, naissance de l'art, élaboration du langage, tout comme Néandertal. Mais aussi, développement de relations sociales complexes, domestication d'animaux, construction de temples et de palais, invention de l'écriture, de l'imprimerie, du véhicule automobile, de l'ordinateur, de l'imagerie par résonance magnétique qui permet d'observer un cerveau en action, de l'intelligence artificielle. Comme Néandertal, Sapiens enterrait ses morts, même si cette coutume a plus tard été concurrencée par l'incinération. Les plus anciennes sépultures connues, retrouvées à Skul en Israël, sont vieilles de 100 000 ans. Cette pratique est considérée comme un propre de l'homme parce qu'elle suppose une capacité d'abstraction, d'introspection et résulte d'une réflexion sur la nature même de la vie. Les animaux n'enterrent pas leurs morts. Ni les dieux, bien sûr, puisqu'ils sont immortels. C'est d'ailleurs ce qui les caractérise. Les humains ne se sont pas toujours interrogés au sujet de ce qui les caractérisait eux-mêmes. Si leur intelligence a longtemps constitué la clé des relations sociales, la mère de tous les outils ou le principal moyen de défense, la compréhension de ce talent multifonction ne faisait pas partie de leurs principales préoccupations. D'autant que l'intelligence ne leur permettait pas de se définir eux-mêmes, c'est-à-dire de se différencier des autres formes de vie, puisque pour eux, les animaux aussi pensaient, avaient recours à des stratagèmes et étaient doués de mémoire. Pour nos très lointains prédécesseurs, l'intelligence des animaux n'était même pas une question. À force de les observer, ils les connaissaient au moins aussi bien que n'importe quel éthologue contemporain. Leur survie en dépendait. Ils ne